J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Et je laisse le filet de musique se poursuivre. Bienvenue à tous et à toutes pour ce jeudi 19 avril 2018, que le temps passe. Nous sommes ensemble pour une heure d'information dans ce Canu Info du jeudi, donc hein, ça c'est assez logique. Et alors, ce soir, nous allons être ensemble sans Laurent, et oui, mais je gagne un petit peu au change avec Fabien et Jean-Yves qui m'accompagnent ce soir.
Salut,
bonsoir.
Alors, vous le savez, aujourd'hui c'était...
Et Delphine, bonsoir quand même.
Ah oui, salut à tous et toutes. Et donc oui, aujourd'hui c'était la grève, et la manifestation, nous y étions tous les trois. Mais moi j'étais plutôt en boîte de nuit, je dois vous le dire quand même, parce que c'est vrai qu'il faut se le dire, à 14h08 quand la manif a démarré, il n'y avait pas trop de monde hein, vers la gare des Brotteaux, on était quand même un tout petit peu inquiet, il faut le dire. Finalement ça s'est bien fini, c'est-à-dire que les gens arrivent quand ils peuvent, peut-être en sortant du boulot, voilà, casse-croûté, tout ça joue. Et finalement c'était bien, certes boîte de nuit, parce que beaucoup de camions à musique et qui écrasent un petit peu les slogans. Moi je saluerai le camarade, je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra s'il le veut, qui tenait le mégaphone des syndicats de la CNT du Rhône, parce que ce camarade a tenté de nous crier quand même et de nous faire crier quelques slogans. Ça a été dur.
Il faut dire que Damien XVI fait du bruit.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est que, bon, entouré de buvettes syndicales, qui évidemment soutiennent la grève, il était dur quand même d'entendre dans cette manifestation de convergence des luttes quelques slogans, même s'il y a eu hein, quand même, bon, on est aussi là quand même un peu pour lutter. Moi, j'ai vu aussi des gens qui, je pense, étaient dans la grève depuis quand même quelques jours, je pense aux cheminots, et qui se sont bien amusés, parce que, bah, une manif, ça peut aussi servir à ça, à se ressouder collectivement dans un moment chaleureux. Quand on se fait pas taper par les flics, quand même, je trouve qu'il faut aussi savoir être dans la rue et en profiter. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait une énergie de fait aussi que le cortège ne ressemblait absolument à rien. C'est-à-dire que tout le monde était ensemble et mélangé.
Ça, c'est clair.
Et ça, c'était quand même plutôt assez sympathique. On notera que, avec cette convergence des luttes, hein, qui avait été appelée à, par une intersyndicale, par la CGT, l'UD du Rhône, on a perdu un petit peu du syndicat en route, en cours de chemin. La CFTC.
Il y en a qui n'ont pas eu envie de venir, c'est ça?
CGC, qu'est-ce qu'on a perdu aussi?
CFDT.
La CFDT.
Non, j'ai vu deux, trois drapeaux.
Oui, il y a toujours quelques rebelles, la CFDT. Bon, en tout cas, sinon, il y avait donc la CGT, les CGT, hein, Solidaires, Sud, la FSU, la CNT, enfin voilà, il y avait, bon, bah, les syndicats qui restent, hein, finalement. Alors moi, j'ai pas fait les comptes. Vous avez fait les comptes? Vous saviez combien nous étions?
Non.
Ah, voilà.
J'ai vu que le progrès voulait pas donner de chiffres.
Ah,
c'est, donc on devait être plus que prévu.
Ouais, c'est bien. Donc il y avait effectivement, comme je vous le disais, les cheminots qui étaient là. Le gouvernement continue, hein, son forcing tranquillou avec la dégradation du système ferroviaire et de la SNCF. On a appris que donc les cheminots vont perdre leur statut en 2020, hein, si ouais, j'ai tout ça. Noté. J'y attendais que ça soit quand même un peu rapide, hein, parce que 2020 c'est demain, on est en 2018, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment demain, il y a la CGT Énergie qui s'est lancée dans un mouvement. Moi, ce que j'aime bien avec ce côté de la CGT Énergie, j'aime moins quand même le côté nucléaire de la chose. J'aime bien quand il y a une idée de faire profiter les grévistes, les usagers, tout ça que nous sommes, les clients que nous sommes aussi, de quelques basculements d'heures pleines en heures creuses, de quelques rétablissement aussi d'électricité, en particulier auprès des familles les plus précaires qui se sont vues l'électricité coupée. Et ben ça, moi je trouve que c'est des gestes collectifs qui sont plutôt bien. Voilà, il y avait évidemment aussi les gens de santé sociale, il y avait les EHPAD, enfin voilà, il y avait quand même un petit peu des gens aussi qui sont représentés. Mais c'est vrai que pour une convergence des luttes, on en a parlé hein, tous les deux Fabien pendant cette manifestation, il faut qu'il y ait des luttes. Et le problème c'est qu'on n'est pas très très nombreux et nombreuses à être en lutte actuellement, et que donc bah, faire converger quelques luttes très isolées, parce que dans des contextes sectoriels très différents, c'est pas facile. Moi, je regrette encore une fois ce micro, comme je l'ai regretté la semaine dernière, qu'il n'y ait pas une journée sur les transports avec Air France et la SNCF. Mmh. Ça, ce serait...
Et les TCL, au passage.
Et les TCL, ah oui, combien fonctionnait? Vous avez eu vos métros et vos tramways aujourd'hui?
Non, mais c'est un bon exemple, quoi, je veux dire. Voilà. On voit que là, il y a un souci de convergence, clairement.
Qu'est-ce qu'on pourrait vous raconter d'autre sur cette grève, à part la boîte de nuit et les buvettes?
Moi, je voulais dire qu'il y avait aussi des étudiants.
Oui.
Ils n'étaient
oui.
pas forcément nombreux, mais en période creuse ou de vacances scolaires, ouais. je m'attendais à ce qu'il n'y en ait peut-être pas ou peu. Et là, je trouvais que c'était encourageant quand même de voir ouais. Que les jeunes aussi, vilaine appellation.
Vieux con, va.
Merci. Et prenaient aussi effectivement la rue, même s'ils n'étaient pas à l'école.
Alors, on a aussi appris que la CFDT refuse donc un 1er mai unitaire proposé par la CGT. C'est Laurent Berger qui nous a annoncé ça aujourd'hui. Il nous a fait la faveur, non pas nous, mais en tout cas pour ce Canu Info de pouvoir l'annoncer. Alors,
on n'est pas surpris non plus, quoi.
Non, enfin, il faut le dire. Alors, c'est que la CFDT, l'idée de la convergence, ça ne plaît pas du tout. C'est parce que en fait explique que ça ne fonctionne pas, que c'est plus une démarche politique, je le cite, qui n'est pas la nôtre, qu'une démarche syndicale. La démarche ah, oui. politique, je veux bien qu'il essaye de rentrer dans les détails et de m'expliquer un tout petit peu plus. Il explique qu'il y a aussi des combats spécifiques selon les champs professionnels. Alors c'est marrant parce que nous on est plutôt pour la lutte intercorporatiste et lui il nous ramène tout ça au métier, au secteur, à la corporation. C'est marrant hein, cette vision du monde quand même.
Et surtout c'est quand même super surprenant, enfin non pas vraiment de la CFDT, mais quand on regarde l'historique de la CFDT qui s'est renforcée en 68 et qui s'est renforcée autour des grèves interprofessionnelles justement. Et c'est là que c'est tu te dis, bah, le gars, il a même oublié l'histoire même de son syndicat, quoi. C'est-à-dire comment la CFDT avait émergé. Donc, bon, au moins, il est cohérent avec lui-même. Hein.
Oui, de toute façon, on s'attend à ce que la CFDT lâche un certain nombre de choses avec des négociations avec le gouvernement. Hein.
Bah, c'est le coup d'après. C'est que, de toute façon, la CFDT est déjà sur la réforme des retraites qui arrive là, normalement, je crois, en début d'année. Et ils sont sur l'idée de placer ce qu'ils ont toujours voulu, c'est-à-dire des retraites par points et plus par capitalisation. Non, par capitalisation, pardon. Voilà, mais par points. C'est beau hein, quand même.
C'est bien fait. Alors moi, je voulais quand même signaler qu'aujourd'hui se tenait un grand rendez-vous en cette journée de grève et de manifestation. Oui. Il y avait un grand forum de recrutement au... Je suis obligée de faire de la pub, je suis désolée, ça m'arrache la bouche, au Groupama Stadium de Lyon.
Oh, ça fait mal, ça.
Ça fait mal de le dire. Hein. Je ne sais pas comment ils font tous ces commentateurs et commentatrices sportives.
Bah, ils sont payés par la pub, donc ils s'en foutent.
C'est tout à fait vrai. Ça, voilà, ça s'est fait, c'est coché dans la case. Donc, il y avait 240 postes en alternance et en apprentissage à pourvoir ce jeudi, dans ce machin stadium de Lyon, un grand forum de recrutement, je vous le disais. Donc c'est marrant quand vous avez ce genre d'événement qui se passe alors qu'à côté, il y a des gens qui sont en grève et qui sont en lutte. Moi j'ai croisé quelqu'un au téléphone qui expliquait à son auditeur, auditrice hein, de l'autre côté de Londres, que bah, lui il cherchait du boulot et que les autres ils étaient en grève. Bah oui, mon frère, à ce rythme là, le boulot, tu penses que si t'en as, il sera pourri et tu risques de pas en avoir. Donc il y a une espèce de, voilà, de petite déconnexion comme ça, on est on souhaite en tout cas ces alternants et ces gens en apprentissage de réussir dans la vie professionnelle parce que, chers amis, c'est vous les jeunes, hein, dont on parlait tout à l'heure, vous êtes mal barrés. Autre chose sur cette journée de grève, de mobilisation?
Bah, pour une fois, il faisait beau.
Il faisait beau. Brut de nuit.
En plein air.
En plein air, en journée. Ouais. C'était sympathique, on y retournera.
Et toi, tu voulais nous parler des, derrière des profiteurs, parce qu'il se passe aussi un truc aujourd'hui.
Ouais.
Il y a des gloutons.
Ouais.
Des gens
ouais.
qui avalent des trucs très gros
ben
en
oui.
une seule fois.
Alors, le profiteur de la semaine, c'est une profiteuse, une multinationale qui s'appelle Total. Tout le monde connaît Total, hein, on est d'accord, on va pas revenir sur la question. Total a donc décidé d'acheter Direct Energy. Pour vous rappeler, Direct Energy, c'est le numéro 3 du marché de l'électricité et du gaz en France, derrière EDF et Engie. C'est un groupe qui est présent sur le marché français depuis 2003 et qui donc a eu le temps de faire son petit chemin, tranquillou, dans un marché extrêmement concurrentiel, il faut bien le dire. Donc, le conseil d'administration de Direct Energy a approuvé hein, l'opération à l'unanimité mardi. C'est pas agressif, il faut être bien clair hein, sur ouais, la question.
C'est une offre d'achat sympathique.
Toute amitié. Donc, Total va d'abord acheter la 64% de Direct Energy pour 1,4 milliard d'euros. Hein, auprès des principaux actionnaires. Et puis ensuite, il va y avoir une offre publique obligatoire sur les actions restantes qui seront cotées en bourse à 42 € par action. Alors, moi, j'ai un peu tenté de savoir si c'était bien ou pas. Il paraît que c'est bien, parce que c'est assez avantageux. Qu'actuellement, Direct Energy est valorisée en bourse à 1,45 milliard d'euros et que, bah, avec ces 42 €, c'est bien par rapport hein, aux bénéfices de Direct Energy. Hein.
Bah, ils mettent 500 millions de plus sur la table. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et alors, donc, fallait penser à Jean-Yves investir avant pour faire là, un petit quelque chose quand même. Hein,
dommage.
T'as raté quand même le coup qui nous était proposé. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps cette marque Direct Energy va perdurer avant d'être intégrée hein, sous le contrôle, l'appellation contrôlée, on pourrait dire Total. Ce qu'on sait, c'est que le PDG de Total, M. Patrick Pouyanné, a expliqué qu'il n'y aurait qu'une seule marque à la fin. C'est juste la fin, on ne sait pas quand c'est. Il est tout content, Patrick Pouyanné, donc, de son nom de famille. Il explique qu'on devient le plus gros fournisseur alternatif en France. Alors son truc à lui, à ce patron, c'est d'expliquer qu'il faut aller de la pompe à la prise. Le slogan est simple et facile à comprendre. Pompe, prise.
Un monopole sur les énergies. Quoi.
Et voilà. Ah bah c'est une multinationale quand même qui hein, est là depuis un petit moment. Alors bon, paraît que c'est le PDG de Direct Energy qui va prendre la tête du nouvel ensemble. Puisque Total a déjà lancé une offre aux particuliers, c'était en septembre dernier, qui s'appelle Total Spring, parce que oui, in English, it's better. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ça devrait arriver, cet achat, d'ici la fin de l'année 2018. On n'a pas encore exactement le processus et le protocole et l'agenda, mais ça va être assez rapide hein, quand même. Alors, j'ai aussi appris que le patron Patrick de Total va assurer qu'il n'y aura aucune destruction d'emplois. Je le cite, c'est plutôt l'inverse, on va plutôt créer des emplois. Nous voilà donc rassurés, tout va donc bien se passer, pas la peine de descendre dans la rue. En tout cas, avec cette acquisition, Total passe de 1 à 7% de part du marché de l'électricité, ce qui n'est pas rien. L'idée pour Total, c'est évidemment de développer son carnet de clients. Le chiffre que moi j'avais, il date du mois de janvier. Un responsable de Total expliquait qu'il y avait 500 000 clients. Ce qui est pas mal parce qu'en fait, ils se sont assez rapidement installés hein, sur le marché. Mais Direct Energy compte 2,7 millions de clients. Donc l'idée, là, c'est vous voyez, de se faire une belle base de clientèle. Et puis, d'ici quelques années, d'arriver à 6 millions. Donc là, il faut encore augmenter de 3 millions. Hein. La stratégie de Total Spring, c'était celle de Direct Energy et des autres, c'est de proposer des réductions, de dire ça va vous coûter moins cher chez nous. Mais il faut savoir que l'association de consommation logement cadre de vie CLCV, comme on dit, a vendredi dernier a signé en justice Total Spring, Engie et Cdiscount pour pratiques trompeuses. L'association de consommateurs et de consommatrices estime que en fait ils mentent globalement sur leur réduction, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il va y avoir tant de réduction alors qu'en fait quand on fait le calcul des petites factures, et ben en fait ça marche pas aussi bien qu'ils le prétendent dans leur publicité. Bon, évidemment du côté de ces fournisseurs, on dit qu'il faut lire les petites lignes. En gros,
bah, c'est toujours le même truc. Quoi.
Voilà, vous êtes mal démerdé.
T'as pas lu le contrat de 300 pages, sérieux?
C'est ça, surtout en petite ligne avec la loupe.
Oui, c'est ça.
Alors, je vous le disais, il y a une belle concurrence qui s'est mise hein, sur ce secteur de l'énergie. Pour l'instant, EDF continue à détenir une bonne partie des abonnés. Je crois qu'on est de l'ordre de 80%, quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est très difficile de faire changer le client, puisque les études montrent qu'en fait, le client qui va changer de fournisseur comme ça, en claquant des doigts, il est pas si fréquent. les gens vont changer de fournisseur quand ils déménagent. C'est-à-dire à un moment de déménagement, on en profite, on se dit tiens, est-ce qu'on va pas payer moins cher ailleurs, et c'est là. Sauf que on déménage pas non plus tous les jours, donc le changement de client, comme il est pas à chaque déménagement, la clientèle n'est pas aussi importante et ne se répartit pas aussi vite sur les autres fournisseurs.
Et puis les concurrents d'EDF sont plutôt contents parce que EDF est obligé de payer une prime qui est reversée à ses concurrents parce qu'il a une position de monopole. C'est la fameuse loi européenne qui interdit les trusts. Donc du coup, ils sont même financés par leur propre concurrence, ce qui est quand même assez drôle, mais voilà.
Ouais, alors après EDF, ils perdent quand même des clients, puisque là, c'est la commission de régulation de l'énergie qui explique que EDF perd 100 000 clients par mois, c'est beaucoup, mais voilà, il y a quand même aussi beaucoup de comptes hein, chez EDF, donc ça prend du temps, mais ça bouge un petit peu, donc ils sont tout contents. Alors, dans cette affaire... ce qui est bien total, moi j'appelle ça la boucle, elle est bouclée, se renforce également dans la production d'électricité. Et oui, c'est ça aussi l'intérêt pour Total, hein, c'est d'avoir une belle boucle, vous voyez. Alors Direct Energy avait une filiale qui s'appelle Quadran, si je me souviens bien, qui investit dans des centrales électriques à gaz et des parcs éoliens. Donc, ce qui fait que ça amène déjà un peu de matériel à Total. Alors il y a une... j'en discutais avant qu'on rentre dans ce studio. Une centrale électrique qui devait apparaître à Landivisiau, c'est dans le Finistère. Hein, c'est Direct Energy qui veut construire cette chose. Le projet est basé sur un consortium Direct Energy Siemens depuis 2011 et le bousin n'a toujours pas démarré. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vilains et des vilaines sur place qui tentent de bloquer cette affaire. Donc il y a tout un paquet d'associations locales. Il y a même des groupements d'agriculteurs bio qui estiment que le projet est très cher, qu'il est dépassé, qu'il va être coûteux et qu'il est en contradiction avec l'objectif de la COP21. Donc il y a une mobilisation sur place pour revoir le projet. C'est-à-dire que les gens disent ok, on veut l'énergie, d'accord, bon, c'est pas du nucléaire, mais... qu'est-ce que tu nous proposes de vraiment bien à la place? Bon, enfin, tout ça reste que ça renforce quand même Total dans ses autres investissements qui concernent le solaire, puisque Total a aussi acheté des fabricants de panneaux solaires, comme le fabricant SunPower, par exemple. Donc, Total essaye de passer de la pompe à la prise, et s'y prend plutôt pas si mal. Mais moi, j'ai bien entendu Patrick, il paraît que tout va bien se passer pour les salariés.
Si pas tout le dit.
Tout va bien. Alors, on va reparler, on va continuer avec du verre.
Oui. Ah bah oui, parce que du coup, ce qu'il y a de bien avec Total, c'est que ça fournit aussi de quoi faire du gaz à réchauffement climatique, c'est-à-dire du CO2 et du méthane. Et donc, du coup, il y a deux jours, je suis désolé, mon info n'est pas d'aujourd'hui, il y a deux études qui ont été enfin publiées, qu'on attendait depuis un petit moment, et qui concernent le Gulf Stream. Alors, le Gulf Stream, c'est le fameux courant qui passe le long des côtes françaises, et notamment pour ceux qui vont dans le Morbihan, ce qui permet au Morbihan d'avoir une mer assez chaude et un climat plutôt tempéré. Et bien en fait, le Gulf Stream, il y a deux études qui ont été menées dessus. Une qui a 50 ans, donc on peut dire qu'elle a quelques années de données qui ont été engrangées, qui a duré 50 ans. Et une qui s'est faite sur la salinité de l'eau dans le Gulf Stream et qui en fait, elle, a duré quand même 10 ans. Donc c'est loin d'être des études au doigt mouillé. Et en fait, les études, elles confirment ce qu'on pensait, c'est que plus la glace des pôles fonde et plus le Gulf Stream se ralentit ou disparaît du fait que la salinité de l'eau diminue. Bah oui, parce que les glaces, c'est généralement, et c'est même tout le temps, de l'eau douce, donc elle se déverse dans les océans, et donc du coup, il y a moins de sel. Et en fait, ce qui permet d'avoir des courants marins, c'est le fait qu'il y ait une différence de salinité entre deux zones de flotte, quoi. Voilà. Quand on lit ça, on se dit oui, bon, c'est pas grave. En fait, si, parce qu'en réalité, le Gulf Stream, c'est ce qui permet d'avoir le climat tempéré qu'on a sur la France et jusqu'à un petit bout de l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc, en fait, c'est ce qui permet en fait à l'Europe d'être différente du Maghreb, en fait. Parce qu'en réalité, d'un point de vue géographique, sur le sud de l'Europe, il n'y a pas de raison que l'Espagne soit un peu plus verte que l'Algérie, voilà, si ce n'est en fait qu'il y ait le Gulf Stream. Voilà, je donne cet exemple-là. Et par exemple, pour la France, ça veut dire que sur Lyon, les scientifiques estiment que l'on aura très rapidement le même climat qu'à Mulhouse. Alors, quand on dit ça, les gens, ils ont toujours l'impression qu'à Mulhouse, il fait plus froid qu'à Lyon. C'est pas vrai. À Mulhouse, il fait plus chaud en moyenne qu'à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, il fait 35 degrés l'été et moins 15 l'hiver. Mais l'été, il y a 5 ou 6 semaines où il fait 30 degrés. Donc, en fait, vous avez une grosse période de chaleur et une grosse période de froid. Pour avoir un petit exemple, c'est à peu près le même climat que Montréal. Voilà pour voilà. Puis sur Paris, en fait, ça veut dire qu'il y aura plus de pluie et plus de neige en fait que ce qu'il y avait. Donc les premiers épisodes qu'on commence à voir, c'est qu'un début. Et sur Bordeaux, le climat va ressembler à celui du Finistère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un climat océanique où il fera beau, moins beau toute la journée. Et ça, voilà, c'est un peu différent.
Donc, faut pas que j'investisse dans la pierre par là-bas.
Alors, faut pas que j'investisse dans la pierre, ni dans le vin. Parce que finalement, là où ça va avoir un impact très très rapide, c'est par exemple sur tout le bordelais, sur tout le vin bordelais. Et d'ailleurs, les viticulteurs s'inquiètent parce que le changement de climat fait qu'on peut plus faire du vin comme avant. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Ouais.
Là, ça t'inquiète vraiment.
Là, je suis inquiète. Hein,
voilà, là, tu te dis, merde, le Bordeaux. Voilà. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que ces deux études, il y avait déjà eu des ce qu'on appelle des pré-études qui avaient été publiées, c'est-à-dire avant qu'on ait la consolidation des chiffres, tout ça, c'était pour alerter en disant, bah voilà, on constate ça, attention, machin. Il faut savoir que l'étude qui a été menée sur 50 ans, en fait, en 1978, elle avait publié une pré-étude en disant, attention, sur 10 ans de données, en fait, on se rend compte que le Gulf Stream se modifie assez rapidement. On parle de 78, hein, donc vous voyez que voilà, puis ça s'est accéléré après. Et il disait, il faut donc qu'on adapte notre agriculture, parce que c'est ça le vrai problème, c'est que si on change de température et de climat, eh ben il faut adapter l'agriculture qu'on fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire la même agriculture si vous avez le climat de Mulhouse à Lyon, par exemple. Et ben comme rien n'a été fait, là, les scientifiques nous disent gentiment, ben voilà, écoutez, pour nous, il reste 15 à 25 ans, hein, en gros, parce que c'est pas non plus des devins, donc ça fait exactement pour que ça bascule totalement et que les climats changent totalement. Ils disent qu'on le voit déjà aujourd'hui, hein. Ils expliquent d'ailleurs que les grands événements neigeux qu'on a eu cet hiver ont un lien au moins partiel avec ce ralentissement du Gulf Stream, et que donc ben, c'est pas une surprise pour eux, et ben, en gros ils nous donnent gentiment 15 à 25 ans pour adapter l'agriculture, et ils préconisent d'ailleurs de sortir de l'agriculture industrielle qui n'est pas du tout adaptée à un changement climatique rapide, et qu'il faut revenir à des petites exploitations et à des agricultures qui ne sont pas dépendantes des intrants extérieurs. Voilà, c'est leur conclusion. Comme quoi, il faut croire que les zadistes ont plutôt raison.
Non.
Donc, je dis ça comme ça, mais, non, mais voilà.
Et alors après, c'est fait un peu pour faire dans le cliché, mais moi je repense à tous ces vieux et vieilles écolos à qui on a toujours fait, on les a toujours fait passer. Ouais, voilà, je ne voulais pas aller jusque-là, mais effectivement pour ça. Et en fait, bah, ils étaient bien plus lucides, sûrement, que tous nos politicards rassemblés, quoi, depuis 50 ans. Et
ah bah moi, je pense que nos politiciens, ils sont tout à fait lucides.
Oui, mais
ils s'en fichent. Ils veulent conserver leur petite écharpe. Et puis, pour certains et certaines, on peut bien se douter qu'il y a quand même des proximités avec une industrie polluante qui profite aussi de la situation. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui comment certaines promotions des grandes écoles passent tous par et toutes par la même entreprise, et puis après se retrouvent dans les ministères, ouais. Et puis voilà, c'est aussi l'état de notre démocratie, il faut aussi
c'est clair.
Voilà, des fois ne pas l'oublier.
Et j'en profite juste pour glisser une info qui avait collé sous un commentaire où quelqu'un disait, en France on prend 8 mois quand on verse un extincteur sur un, quand on déverse un extincteur sur un gendarme, et on prend 0 mois quand on tue quelqu'un, et on dit voilà les priorités, et je trouve que c'est assez vrai par rapport à ça, parce qu'il parlait des zadistes et tout ça, voilà. C'est l'occasion de le rappeler.
Ouais. On parlera pas de la ZAD ce soir. Comme vous le savez, nous faisons les choix que nous souhaitons. On fait comme on veut. Comment vous dire et vous expliquer mieux la chose? Et alors, 10 fois, il arrive que dans une émission, quand on la prépare, on a tous et toutes envie de parler de la même chose. Ouais. Et c'était le cas ce soir où un sujet a retenu notre attention. Et ce qui est dingue, c'est que Laurent n'est pas avec nous, mais je suis à peu près sûre qu'il l'aurait traité. voilà, donc lequel d'entre vous, Jean-Yves, Fabien, souhaite commencer à évoquer la chose?
Bah, on va juste, ah bah tiens, pour expliquer pourquoi Laurent l'aurait traité, on va juste dire préfecture, cateau intégriste, pièce de théâtre, censure. Voilà, je pense qu'on a bien posé le décor.
On peut donc changer de sujet. Oui, alors on va dire que c'est dans la Sarthe, c'est ça.
C'est ça, c'est la Sarthe, c'est donc même au Mans, la ville du Mans, que Romeo Castellucci, qui a fait donc une pièce qui s'appelle Le concept du visage de Dieu.
Sur le concept du visage de Dieu.
Bien sûr, présenter sa pièce. Alors sa pièce, ça fait quand même des années qu'elle tourne, hein. c'est pas une pièce nouvelle, ça fait à peu près, je crois, une dizaine d'années qu'elle est jouée à droite à gauche. Et là, en fait, la préfecture de la Sarthe a reçu énormément de messages de pression demandant l'annulation de cette pièce, et la préfecture n'ayant pas le pouvoir en France de censurer une pièce, si ce n'est si elle avait un trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, a trouvé un petit truc en biais pour y arriver, en disant ans, nous interdisons aux mineurs de travailler ce soir-là, voilà, sachant que la pièce met en scène, à un moment donné, des enfants. Et donc, ça revenait à censurer une partie de la pièce et pas toute la pièce.
Oui, alors c'est une scène précise qui est visée hein, par les groupes religieux intégristes. C'est qu'à un moment, il y a une scène qui est à... Nous, on n'a pas vu la pièce, hein, on vous le dit. Donc, on essaye de la rapporter au mieux. Il y a un groupe d'enfants sur une scène qui va être assez longue qui vont lancer des grenades, tout ce qui est plus... factice, hein, nous sommes au théâtre, rappelons-le. Non mais je tiens à le préciser, parfois il semble nécessaire de...
Surtout pour les cathos intégristes,
voilà,
a priori.
Rappeler ce genre de choses. sur un portrait géant du Christ, hein, d'Antonello di Messina. Et c'est ce qui n'a pas plu dans cette pièce de Romeo Castellucci, qui a déjà travaillé hein, sur cette notion du Christ, de la religion et de notre société. C'est pas sa première pièce, c'est pas la première fois qu'il est attaqué. Et ouais. Donc, tu sais qu'il y avait le petit texte hein, de la préfecture qui dit,
oui, c'est vrai.
Considérant l'âge des enfants retenus pour la prestation et les caractéristiques de la scène à laquelle les mineurs devaient participer, le préfet de la Sarthe a refusé cette autorisation d'emploi par un arrêté préfectoral. Cet arrêté n'a pas vocation à interdire cette scène durant le spectacle, il vise uniquement à préserver les mineurs qui auraient dû y participer.
Ouais, c'est un peu du foutage de gueule quand même.
Donc tu peux faire la scène mais pas avec les enfants qui sont prévus, donc par la mise en scène. Voilà. Alors, bon, il y a eu des réactions, évidemment, Romeo Castellucci, la direction du théâtre, Madame la ministre.
Oui, qui d'ailleurs a une sortie assez étrange, entre oui mais non. Quoi.
Et en fait, en même temps, pour l'instant, elle ne sert à pas grand-chose, Madame Françoise Nyssen, quand même. Je sais pas, moi, je ne la vois pas beaucoup agir, en tout cas, pour la culture, pour le spectacle. Hein, voilà, c'est un peu de... Voilà. Bon, enfin, sur cette affaire, nous, ce qu'on en pense, c'est que, c'est ce que moi, je vous disais, hein, c'est qu'il y a des enfants, donc il y a le travail des enfants, ça se débat, ça se critique. Ils portent des grenades, ça se débat, ça se critique aussi. Voilà, mais on est dans l'ordre du débat, pas de la censure.
Voilà. C'est ça. Mais surtout, c'est un peu un argument. Enfin, ce qu'on sent aussi, c'est que c'est un peu d'un gage donné. Ce qui est étrange, c'est que ça arrive. Alors, je vais l'élargir. Ça arrive au moment où le cher président Macron va faire une petite sortie chez les évêques en leur disant qu'il faut ressouder le lien entre l'Église catholique et l'État. Et paf, d'un seul coup, il y a une préfecture qui se dit bah tiens, je vais donner raison finalement à des cathos intégristes qui m'écrivent, parce que c'était majoritairement ça, qui m'écrivent pour faire interdire une pièce. Et c'est quand même pas anodin cette séquence là. Quoi. C'est-à-dire que ça tombe dans cette séquence-là. C'est-à-dire que c'est pas juste un préfet qui a pété une tuile un jour et qui s'est dit tiens, moi je vais montrer que j'aime bien les cathos. C'est quand même, on a un président qui va s'accroupir, s'étaler devant les cardinaux et qui derrière, un préfet qui dit ah bah tiens, maintenant j'ai le droit de faire interdire une pièce. Et c'est ça qui me pose question. Et pour le travail des enfants et tout ça, bien sûr que ça se discute, il n'y a aucun problème, mais comme l'expliquait très bien l'auteur et le metteur en scène, parce que c'est pas, il y a aussi un metteur en scène, toutes les précautions sont prises, comme c'est toujours fait au cinéma, c'est-à-dire que les enfants ne travaillent pas 24 heures, enfin voilà, il y a une notion, il y a un accompagnement pédagogique derrière, voilà, ils sont pas lâchés comme ça sur une scène avec des grenades va lancer. Et moi, ce qui en plus m'amuse, entre guillemets, c'est que l'auteur en question n'est pas du tout un athée militant. C'est quelqu'un qui interroge sa foi à travers ses pièces. Donc on n'est même pas dans... C'est même pas du blasphème, comme certains le disent, ou je sais pas quoi. C'est vraiment...
À partir du moment où tu interroges le dogme, est-ce que tu n'es pas déjà dans le blasphème du point de vue de ces totalitaires religieux ?
Si, c'est clair.
On a donc la réponse.
Alors moi, du coup, j'ai été lire le tweet de Madame Françoise Nyssen, parce qu'évidemment, quand on donne son avis et qu'on est ministre, on tweet. Hein.
Ouais, parce que c'est trop long de faire des communiqués voilà. De presse. Madame.
Donc, elle a expliqué son attachement à la profonde liberté de la création, blablabla. Donc, elle soutient le lieu et le metteur en scène. Alors, du coup, je vous laisse imaginer qu'en conséquence de quoi, il y a eu un certain nombre de réponses à Madame Nyssen à son tweet. Hein, et on a une belle répartition de ce qui interpelle les gens, qui ne souhaitent pas que cette pièce donc existe, en tout cas qu'elle soit raccourcie. Alors il y a ceux qui détournent le truc en disant et si un metteur en scène faisait pisser un comédien sur un Talmud ou encore sur un Coran, défendriez-vous de la même manière la liberté de création? Donc ça c'est le côté je me sers d'une autre religion pour essayer de faire passer ma propre idée.
C'est bien pourri quoi.
En tout cas moi je le vois comme ça.
Oui, c'est ça.
y a des gens qui interpellent. Ah, il y a des gens qui interpellent en demandant. Et du coup, vous en avez parlé avec Gérard Collomb, hein, parce que bon, comme il en veut un peu quand même. D'autres qui demandent. Il faudrait savoir. Vous ne voulez pas rétablir le lien avec les cathos? Bon, il y a des gens qui répondent pas avec les intégristes. C'est une réponse. Hein.
Il faut choisir ses cathos, en fait.
Voilà. Alors après, il y a l'attaque évidemment du blasphème, hein, le manque de respect. Quelqu'un a crié Madame, ne confondez pas l'art et le manque de respect. Deux choses qui ne se comparent pas, mais c'est pas grave. C'est en détruisant ses racines que l'on se renie. Voilà, la racine revient quand même assez fréquemment.
En même temps, c'est le printemps.
Pardon, oui.
C'était une mauvaise.
Alors, il y a quelqu'un aussi qui dit question, si le visage était celui de Mahomet ou de Moïse, comment réagirait la ministre? Ce n'est pas fini, le pire vient. Autre question, l'artiste et la ministre sont-ils francs-maçons? Alors, on se dit, lui, il était au pastis numéro 22. Parce que pour arriver encore à faire ce genre de remarques sur Twitter, c'est que. On débute, peut-être.
Le problème, c'est que ça fait partie de toutes ces théories complotistes, etc., qui ont le vent en poupe, hein, justement, francs-maçons, etc. Je pense que la question suivante, c'était. Sont-ils
Illuminati, non ?
Illuminati ou juifs ? C'est ça, je pense que c'est la continuité, quoi. Ça pue.
Et alors après, il y a évidemment le et pourquoi Dieudonné, lui, on l'attaque parce que machin. Ah, évidemment, on trouve ces trolls. Ça, il y en a quand même beaucoup dans la répétition. Il faut le dire. Moi, j'en ai. Voilà. Bon, le fait aussi sur la question, c'est pas de l'art.
Ok, mais.
Alors, si tu te mets à demander ce qu'est de l'art et pas de l'art,
moi, ça, je trouve que c'est un débat magnifique, ça. Ça, ouais. C'est.
Qu'est-ce qu'est de l'art, toi,
une copie au bac en philosophie, ça suffit pas. C'est. Moi, je trouve ça magnifique comme question, mais sur Twitter, la vue comme c'est posé, je pense que le débat va pas trop avoir lieu. Et alors, il y a quelqu'un qui écrit, je vous l'ai lu hein, tout à l'heure, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oui, quand même, il fallait protéger les enfants. Enfin bon, tout ça, c'est quand même incroyable. Il y a quelqu'un qui écrit, vous avez, monsieur le préfet. Vous avez souhaité protéger des enfants dans le cadre d'une pièce de théâtre de Romeo Castellucci. J'aimerais porter à votre attention que des milliers d'enfants sont soumis à des enseignements religieux avant d'avoir l'âge de choisir. Qu'allez-vous faire?
J'adore la question.
Voilà, moi aussi. Et bah écoute, on va rester parce que c'est marrant. Enfin voilà, c'était vraiment assez des trolls assez traditionnels qui se sont bien organisés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils attendaient devant leur ordinateur que Madame Nissen se décide à tweeter pour voilà. Alors c'est ils sont pas tous ensemble, hein, mais c'est ça.
Non mais c'est même vraiment organisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des réseaux de gens comme ça qui sont qui s'auto-préviennent du tweet de machin ou de truc pour aller troller quoi.
Enfin voilà, donc une nouvelle pièce attaquée. Ouais. Je propose que nous fassions une information routière et nous allons dédicacer ce sujet à tous nos potes en camion.
Ouais. Ben ouais, c'est l'info routière. C'est pas bison futé, mais c'est une petite info qui est tombée. Alors c'est marrant parce que personne n'avait vraiment vu ce qu'il y avait dans cette nouvelle loi. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi sur le contrôle technique qui a été passée et qui va s'appliquer à partir du 20 mai. Alors pourquoi le 20 mai, on ne sait pas, mais c'est comme ça. À partir du 20 mai 2018, un nouveau contrôle technique est mis en place. Et en fait, on n'avait pas vraiment fait attention à ce qu'il y avait dedans. Et si vous avez un camion, un camtar, comme on dit, pour aller pour vivre, déjà, parce qu'il y a pas mal de gens qui vivent en camion, ou pour voyager, ou tout simplement pour vous déplacer pour vous déplacer tout en déplaçant des objets, c'est le cas notamment des forains, qui ont souvent des camions aménagés, et ben en fait, vous n'allez plus pouvoir utiliser votre camion, sauf si vous en changez la carte grise. Voilà. Il faut que votre carte grise, vous la passiez en VASP, c'est-à-dire en véhicule automoteur spécialisé de PTAC inférieur à 3,5 tonnes. C'est dans la loi, moi je sais pour rien. Voilà. Alors ça a l'air comme ça tout bête, hein, parce qu'on dit oui, bon, c'est pas bien grave, ils ont qu'à changer leur carte grise, tout ça. Bah alors sauf que c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut savoir que c'est pas juste une carte grise qu'il faut changer et c'est pas gratuit déjà, c'est très cher. Parce que pour repasser votre carte grise, alors l'État refuse pour l'instant de donner le nouveau tarif parce qu'il va être revu. Il y a des gens qui disent que ça va excéder 500 euros en tout. Parce que en fait, il faut faire enregistrer son camion, il faut le faire reconnaître et comme on dit viabiliser, c'est-à-dire il faut que vous, on dise oui, il va très bien, il répond bien aux normes, donc ça va vous coûter des sous plus le coût de la carte grise. Donc ça peut tourner autour de 500 euros, hein, sympa l'idée. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je vous rappelle que bah, quand vous aménagez un camion, il fallait juste que rien ne dépasse du camion, c'est-à-dire que y a pas les véhicules puissent pas s'embringuer dessus, et surtout que ça ne gêne pas à la sécurité routière, c'est-à-dire que vous ayez des clignotants, tout ça, machin et tout. C'est tout ce qu'on vous demandait. Mais maintenant, on vous demande donc de l'enregistrer différemment. Alors, j'ai un peu cherché parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts de changer la carte grise? Ah bah oui, parce que du coup, vous changez d'assurance. Eh bah oui, parce que vous passez en fait d'un camion à un lieu de vie. Donc les assureurs ne l'assurent pas comme un véhicule, mais comme un véhicule avec lieu de vie. C'est-à-dire que c'est le même type d'assurance que pour les comment ça s'appelle, les camping-cars. Et c'est très 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 cher en fait. C'est beaucoup plus cher qu'une assurance auto de base. Voilà. Et puis ben pour aller quand même un peu plus loin et dans le ridicule, le gouvernement a répondu que ben non, mais il y a une solution. Il suffit que tout ce qui est dans le camion soit amovible. Oui, c'est-à-dire que si vous avez une table, un lit, une gazinière, une mini-gazinière et puis un micro-truc pour garder de l'eau, si tout ça peut s'enlever, il n'y a pas de problème, ça reste un camion comme les autres. Ouais, en gros, il faut que vous fassiez croire aux gens que vous êtes en plein déménagement en permanence. C'est quand même beau. Hein. Mais alors attention, hein, s'il y a eu une seule vis, une seule attache, si ça peut se clipser, si ça peut se bloquer par des systèmes antidérapants, c'est considéré comme non amovible. Vous voyez, donc c'est un peu, on se fout quand même pas mal de la gueule du monde jusqu'au bout. Donc en gros, alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même une vraie chasse au mode alternatif de vie, hein, très clairement, parce que ça a même été présenté comme ça par un député de La République En Marche, dans le débat, où il a dit « Ah bah oui, mais en fait c'est bien, parce que comme ça, ça évitera qu'on ait ces bitnites sur la route ». Voilà. J'ai pas retrouvé son nom, je suis déçu parce que je trouve que on peut bitnit aujourd'hui, c'est fallait l'oser. Et voilà, et on sent bien qu'il y a quand même une vraie volonté de faire une chasse aux pauvres et au mode de vie alternatif derrière ce type de loi et que donc voilà, c'est encore une fois un truc insidieux parce que ça a été passé dans la loi a priori entre minuit et 2h du matin par un amendement déposé par deux députés. Voilà. Mais je trouve ça juste honteux. Alors, faut savoir qu'il y a pas mal de députés qui se font la chasse aux bitnites, a priori. Et ils proposent, dans très peu de temps, ils ont l'intention de proposer un aménagement encore à ça, pour interdire les véhicules tractants, vous savez, si vous voulez mettre une remorque, vers les lieux de manifestation. Voilà.
Wow.
Donc on va loin hein, dans le... Donc on voit bien que c'est vraiment fait pour emmerder les gens qui sont dans des modes alternatifs de vie et pas juste pour la sécurité routière.
Et du coup, le camion que nous avons vu tout à l'heure en buvette aménagée...
Eh ben en théorie, il rentre dans cette catégorie-là. Ah. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça va emmerder tout un tas de gens. Et mais y compris, il y a les forains hein, qui montent aussi au créneau parce qu'ils disent, mais nous, on a plein de camions aménagés. Enfin, c'est pas rare chez les forains. Enfin, surtout ceux qui font les foires internationales, des trucs comme ça, où ils partent pas avec des grandes remorques, ils ont tout dans le camion. Il y a aussi, moi j'y pensais pas, mais il y a des gens qui font de la vente. Vous savez, quand on se déplace de village en village, mmh. Et ben en fait ils disent mais nous nos camions en fait ils sont pour l'instant ils sont juste en camion normal quoi. Ils ont pas, il y a pas, et ben on leur dit, il va falloir changer la carte grise, donc c'est des frais en plus. Et surtout quand vous êtes enregistré en VA machin là, j'ai perdu le nom mais je vais le retrouver en VASP. Et ben en fait vous êtes aussi obligé d'avoir de faire plus d'entretiens sur votre camion. C'est à dire que ça entraîne derrière d'autres dépenses supplémentaires. Donc on voit que c'est pas une mesure juste prise comme ça par hasard.
En même temps, si t'as pas une Bentley à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie, quoi. Donc les gens, vous savez ce qu'il nous reste à faire ? À devenir tous très riches. Il n'y aura pas assez de gâteaux, je crois.
J'hésite avec mes actions aussi. Si tu veux, emmerder quoi.
Acheter du direct énergie et pas du Camtar. Et d'ailleurs, en parlant de Camtar, ça pouvait permettre de se déplacer, d'aller voyager un peu en Europe et du coup d'aller peut-être
oui,
voir les.
Juste une précision, le truc dans lequel on met de l'eau, je propose le bidon ou le jerrycan.
Ah oui, voilà.
Deux propositions au choix. Mais vraiment, voilà, c'était comme ça.
Bah, je ne me souvenais plus.
Bon. Non, mais des fois on cherche nos mots, c'est pas facile. Là, vous qui m'écoutez, il faut savoir que des fois, voilà, on a des trous dans le cerveau.
Et ben, j'en ai plein, moi.
Et voilà, le vocabulaire nous manque parfois. Et comme tu le disais, nous allons aller à l'international. Nous sommes internationalistes dans cette émission. Donc, on va aussi vous parler de ce qui se passe ailleurs. Et nous allons commencer avec la Russie, si vous le voulez bien. Ah, le beau pays que voilà avec les droits humains. La liberté d'opinion, la liberté de la presse, le droit de se réunir, d'être heureux et heureuse. C'est chouette la Russie. Et donc, après cette introduction...
C'est écrit par Vladimir Poutine.
Tout à fait, je suis donc financée, sponsorisée sur un partenariat à l'international, bien évidemment. Comment on appelle ça, des agents sous-marins qui un jour se réveillent au micro de Radio Canu. Donc, trêve de plaisanterie, je vais vous parler d'une bataille qui est en train de se dérouler en Russie, une bataille entre l'Agence fédérale de surveillance des télécommunications, le machin que je n'arrive pas à dire, vous allez m'excuser, le Roskomnadzor, c'est très délicat à dire, et la messagerie Telegram que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître maintenant, avec en particulier l'un de ses cofondateurs, Pavel Durov. Alors, il faut savoir que lundi, il y a eu un blocage qui a été décidé par la justice sur tout le territoire russe de l'application Telegram. Pourquoi ? Parce que du côté de Telegram, on refuse de donner les clés de chiffrement au FSB. Le FSB, c'est les vilains du service de sécurité en Russie. Donc, Telegram ne joue pas le jeu avec les autorités russes. Tac, sanction. Alors... du côté de Telegram, on est quand même avec à sa tête Pavel Durov, qui est un monsieur qui a décidé de ne pas aimer Monsieur Poutine. Voilà, il faut tout de suite se le dire.
Il a le droit.
Oui, il a le droit. Oui, oui. Donc, Telegram change sans arrêt d'adresse IP, puisque les autorités russes ont décidé de bloquer un certain nombre de systèmes. Et là, en fait, avec l'action des autorités russes, il y a à peu près 15 millions d'adresses IP qui ont été bloquées. Ça a été jusqu'à 19 millions 4, hein, quand même, à un moment, c'est le pic atteint. D'ailleurs, cette agence fédérale de surveillance des télécommunications a communiqué en expliquant que la dégradation de Telegram a atteint 30%. Ouh, youpi, on a réussi, c'était pas mal. Sauf que c'est pas si simple parce que en fait, on dit que c'est l'attaque la plus massive contre Internet de toute la censure russe. Ça paraît impressionnant hein, comme ça. Moi, ça m'impressionne que des gens aient pu écrire ça d'une manière très très sérieuse parce qu'on a l'impression que en Russie, il s'est déjà passé tellement de choses que plus rien ne nous surprendrait, ben si, c'est un blocage extrêmement important.
Ah, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que bloquer 19,4 millions d'adresses IP, ça veut dire qu'à un moment donné, vous privez d'accès à Internet 19,4 millions de PC, de téléphones, machin reliés. Mais c'est énorme, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
Non, la justice est intervenue, mais on se doutait bien du côté.
Techniquement, ce n'est pas simple à faire. Quoi,
Pour revenir un petit peu, pourquoi il y a autant d'adresses IP, c'est qu'en fait, il y a plein de sociétés, d'entreprises, il y a même le musée du Kremlin, la messagerie Viber ou les sites internet de la marque de voitures Volvo qui ont été touchés. Pourquoi ? Alors, l'application Telegram, elle se connecte à un serveur. D'accord. Donc l'idée de l'agence, c'était de bloquer ces serveurs pour que la communication soit coupée. Donc l'agence a ordonné aux fournisseurs d'accès russes de bloquer ces adresses IP. Et pour bloquer ces adresses IP, de bloquer les serveurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que Telegram sur ces serveurs, et donc ça a bloqué d'autres entreprises qui étaient dessus. Donc ça a été un petit peu un bazar, et donc c'est comme ça qu'on arrive à un blocage de même de grosses plateformes de vente qui se sont retrouvées un petit peu embêtées. Mais le truc, c'est qu'évidemment, bloquer Telegram reste compliqué, parce que du côté de Telegram, on s'organisait depuis un petit moment, et apparemment, alors je ne suis pas une geek, vous m'excuserez, mais dans le col de l'appli, il y avait une possibilité de pouvoir sauter de serveurs, ouais. Et ce qui pour l'instant c'est un peu le jeu du chat et de la souris hein. On fait du saut de mouton et donc pour l'instant Telegram arrive à garder des connexions ouvertes et à faire fonctionner son application en sautant de serveur en serveur, c'est-à-dire que c'est quand même voilà, ils se sont quand même organisés aussi ça me fait sourire, pardon, de ce côté. Alors c'est un peu, si vous voulez, il faut imaginer, vous voyez, il y a une aiguille. Vous prenez une pagaie. Bah, les autorités russes, elles ont essayé d'enfoncer une aiguille avec une pagaie quoi. Donc ça
c'est compliqué.
Ah bah, t'écrabouilles l'aiguille, mais il y a une chance qu'elle saute ailleurs. Par contre, tout ce qui était autour, c'est sous la pagaie, c'est mort. Donc, c'est un peu... voilà. Alors, il y a en plus des tas de modes d'emploi qui circulent aussi sur Internet, du côté russe, pour comment installer son VPN, faire machin, tout ça. Donc, il y a une espèce d'entraide qui s'est mise en place pour contourner cette censure en Russie. Alors, après, on a aussi un personnage qui est très emblématique, hein, Pavel Durov, il a la trentaine, il est cofondateur de cette application qui est quand même utilisé dans beaucoup de pays. Hein.
Et il est vu comme le Zuckerberg russe, hein,
c'est ça.
Clairement.
Il est traité de héros quand même, hein, même dans certains médias d'opposition, donc c'est pas rien. Et il a appelé, lui, à la résistance numérique. Et il a rencontré des manifestants. Il y a des gens qui se sont d'ailleurs fait arrêter en allant à Moscou sur une place devant le siège du FSB. Ils ont balancé des trucs sur la façade. Et du coup, il y a eu des interpellations. Enfin, bon, voilà. Enfin, oui. Voilà. L'État russe, enfin, c'est un peu pareil chez nous. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Donc, oui, tu disais que c'est le Zuckerberg.
Zuckerberg.
Zuckerberg, je vais y arriver, russe. Ah, il faut savoir que lui, il ne vit plus en Russie. Hein, il est parti en exil.
Mais il n'est pas fou non plus. Quoi.
Bah non, il fait un peu le tour du monde avec son projet. Il a dit qu'il allait donner. Je retrouve la somme exacte, histoire de ne pas me. Ah, c'est des dons de 2 millions de dollars. Il n'y a pas de montant précis. Sur ses fonds personnels pour aider le monde des administrateurs de serveurs relais et les VPN dans le combat pour la liberté numérique, je le cite. Donc voilà, oui, il engage aussi son pognon, mais après, il en a, donc il peut y aller hein, pour l'instant. Il faut savoir, donc en Russie, il faut se souvenir que les autorités utilisent la lutte contre le terrorisme pour mettre en place une censure assez importante sur Internet. On a appris par le chef de Roskomnadzor, voyez, j'y réessaye, que les multinationales des États-Unis d'Amérique devaient faire en sorte de rendre inaccessible la messagerie sur le territoire russe. Donc tout le monde est appelé à se mettre en rang et à s'aligner, droit dans ses petites bobottes. Et il a expliqué : nous espérons que pour Amazon et Google, le business et non la politique primera. Le message est clair, en Russie on prend pas hein, le tourniquet, on y va droit, on fonce dans le tas. Alors on parlait de Facebook, Facebook est visé hein, par justement les autorités russes qui se disent que lui aussi on aimerait bien qu'il donne les petites informations que pour l'instant il résiste encore un petit peu, hein, s'ils veulent se vendre en Chine, en tout cas pour l'instant en Russie il résiste un petit peu. Bon, faut dire que Facebook a quelques soucis quand même sur... la sécurité de nos données, enfin de vos données, puisque je vous rappelle que je n'ai pas de profil Facebook. Cling, cling, voilà, ça c'est fait. Il y a donc un autre endroit dans le monde où Telegram a des soucis, c'est en Iran. Voilà, ça vous étonne ?
Pas trop, non.
Non, on sait qu'en Iran, les opposants, les manifestants, les manifestantes, lors des mobilisations, ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux à leur disposition pour informer aussi le reste du monde de ce qui se passait en Iran et de s'informer eux-mêmes, bien évidemment. Mais ça a permis, c'est vrai, de faire passer une information. Je crache hein, sur les réseaux commerciaux, mais il y a des endroits où ça sert vraiment à des militants, des militantes, à des opposants, à des habitants et des habitantes, tout simplement. Là, si Telegram s'arrête, c'est quand même un peu... pas pratique, mais l'idée c'est d'avoir un télégramme local, puisque là c'est l'ayatollah donc le guide suprême hein, de la révolution islamique en Iran, qui a annoncé donc l'arrêt de l'utilisation de télégramme. Ça a été annoncé hier, et l'idée c'est de développer le télégramme iranien, puisque l'idée derrière, hein, qui est la bonne cause, c'est de dire il faut faire vivre nos entreprises chez nous.
Le patriotisme, ça marche toujours pour interdire des trucs, t'as remarqué?
Ouais. Voilà, c'était ma petite histoire.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi une réponse qui est faite dans plusieurs logiciels libres qui arrivent, et notamment Mastodon ou Diaspora, qui sont en fait des alternatives aux commerciaux, mais qui eux en fait ne passent pas par des serveurs. C'est-à-dire que vous devenez vous-même le serveur, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les informations croisées. C'est plus lent, mais ouais. Par contre, ben, en fait, pour fermer ce réseau, ça va être, c'est quasi infaisable, quoi. Et je trouve qu'il y a des gens qui réfléchissent à cette notion-là de passer par-dessus la censure, c'est toujours intéressant.
Oui, parce qu'il y a du transfert. On parlait il y a pas très longtemps de l'attaque, des attaques des autorités chinoises sur les VPN qu'utilisent beaucoup les internautes en Chine pour contourner la censure, qui est, je vous assure, assez radicale. Ça aussi, hein, c'est tous les États trouvent des moyens de censurer par du blocage, par des interdictions, parfois par aussi des attaques. Hein, sur les structures, on les attaque au porte-monnaie, enfin tout un tas de choses. Il faut que ça réduit la liberté d'opinion quand même dans un certain nombre de pays qui en ont bien besoin, et la Russie, hein, il nous semble, en a un petit peu besoin. Alors j'hésite, j'ai deux sujets en face de moi. Nous allons partir en Arménie. Nous n'y allons pas très très souvent. Depuis vendredi, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, en Arménie, on se mobilise. Il y a des protestations contre Serge Sarkissian, qui était président, qui est ex-président, mais qui a été président depuis 2008 et qui, grâce à un tour de passe-passe, est devenu Premier ministre. Il a des pouvoirs renforcés grâce à une réforme constitutionnelle qui est entrée en vigueur en 2017. Donc, l'Arménie est une république parlementaire. Le président, il fait coucou avec la main. Et c'est donc Serge qui a tous les pouvoirs.
Un peu comme ce qu'avait fait Poutine, finalement, pour garder le pouvoir en Russie.
Ouais, voilà. Donc, il y a des gens dans la rue. Et oui, lundi, il y a eu une quarantaine de blessés, parce que, évidemment, les manifestants et les manifestantes se font taper dessus. L'Arménie, il faut se souvenir, c'est un petit pays, c'est 3 millions d'habitants, avec un pays en longueur, avec des zones rurales, une capitale, Yerevan. Donc, quand vous avez 40 000 personnes dans la rue...
Ça fait du monde, hein.
Ça fait du monde, en fait. Il faut se rendre compte que c'est beaucoup, et c'est ce qui s'est passé mercredi. Il y a eu une grosse manifestation, il y en a eu tous les jours, hein, pratiquement là. Alors des fois, c'est des quelques centaines, quelques milliers de gens qui se rassemblent pour virer Serge Sarkissian, qui a décidé donc de prendre tous les pouvoirs. Ce jeudi, il y a eu des manifestants et des manifestantes qui ont tenté de bloquer l'entrée du siège du gouvernement, d'où l'attaque et les interpellations et des arrestations et tout ça. Là, on parle de plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui. Il y a une opposition de partis politiques qui s'est constituée en Arménie. Il y a une campagne nationale de désobéissance civile qui est lancée. Il faut dire que Serge Sarkissian, là, il s'est bien installé et qu'on se demande jusqu'où il veut aller, jusqu'où il peut aller, puisque pour l'instant, il a la loi. Donc là, l'idée, c'est de le faire tomber, de casser cette réforme constitutionnelle, de redonner un peu de démocratie à cet État qui a quand même beaucoup connu des périodes de corruption avec la chute de l'Union soviétique. Donc ce serait bien qu'il y ait aussi une stabilité économique, démocratique, une stabilité sociale dans le pays. Donc là, il y a un député qui est le chef de l'opposition, qui s'appelle Nicole Pachinian, qui appelle à une paralysie des agences gouvernementales, qui a déclaré le début d'une révolution pacifique de velours. C'est pas comme si en Tchécoslovaquie elle sera là. Est-ce que ça va être de velours
Ouais.
C'est pas sûr, c'est même pas sûr qu'il y a la révolution pour l'instant en Arménie.
Ouais. En fait, il y a toujours cet espoir de, et ce qui est légitime, de passer sans la force.
Ben ouais.
Mais voilà.
C'est pas gagné. Non, c'est vrai. Enfin voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe là-bas, et puis on va partir dans le pays d'à côté. C'est la Turquie. C'est bien, vous avez tous et toutes suivi.
Ah ouais, on aurait pu monter vers le nord, hein, tu sais, on n'était pas obligé de.
Oui, mais on va monter quand même dans le. C'est pas mieux. C'est dans le même genre. C'est presque déjà pire. Hein, parce que M. Erdogan, lui, a commencé à bien, bien attaquer cette démocratie. Il a décidé une belle petite chose, c'est que les élections vont avoir lieu plus tôt. Alors, il y avait tout un tas d'élections. Donc là, elles vont. Alors, les élections vont avoir lieu le 24 juin. Elles étaient prévues en novembre 2019. Alors là, il y a des élections donc, présidentielles et législatives. Tout ça s'est avancé. Il paraît que la nation ne peut pas attendre. Je cite, oui. Ce ne sont pas mes propos. Bon, du côté de l'opposition, on se dit un peu qu'il y va encore en force et qu'il veut juste un soir un peu plus son pouvoir. Et puis qu'il ne sait pas bien s'il peut encore gagner longtemps comme ça, quand même. Mmh. Parce que, quand même, les élections, c'est dangereux. Surtout quand il y a une partie de la population qui ne veut plus voter ou qui, d'un seul coup, pourrait se remettre à voter.
Mmh. Et pas pour lui.
Et pas pour lui, parce que c'est ça. C'est que là, les gens en Turquie ont arrêté de voter, parfois. Mais il pourrait y avoir un retour dans les urnes.
C'est plus qu'en fait, en Turquie, il y a un problème de leader d'opposition, comme je disais. Parce que d'abord, soit ils sont tous en tôle.
Ouais.
Donc déjà, c'est compliqué. Voilà. Et sinon, en plus, ils ont personne qui émerge, en fait, face à Erdogan, voilà, je parle vraiment dans le système électoral. Hein,
mais c'est très difficile parce qu'il faut exister. Il y a quand même encore beaucoup de partis qui sont sur la droite, donc est-ce qu'on s'associe encore avec Erdogan? Est-ce qu'on fait notre vie? Voilà, donc bon, c'était l'information sur la Turquie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il nous reste 10 minutes. Nous n'avons pas parlé de Cuba ce soir.
Non,
vous savez qu'il y a un nouveau chef?
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui. Qui d'ailleurs, lui aussi, va pas avoir les mêmes pouvoirs que celui qui était avant lui. C'est intéressant de voir la démocratie cubaine. D'ailleurs.
Parce que là, il y a eu donc quoi, 59 années des frères.
C'est ça.
C'est
ouais.
Ça, hein, ouais. Donc là, est-ce que va-t-il y avoir une nouvelle ouverture? C'est pas gagné.
C'est surtout qu'en fait, moi, j'ai un peu suivi ce matin là ce qu'ils expliquaient, la nouveauté qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire que. Raúl Castro va prendre la tête du Parti communiste cubain, d'accord. Et donc du coup, le nouveau président qui normalement n'avait pas à rendre des comptes à la tête du PC cubain, en fait, va être obligé de lui rendre des comptes. Donc c'est un peu étrange, c'est-à-dire que c'est plus moi, mais c'est moi quand même. C'est un peu ça, quoi. Et on est quand même dans un peu du, c'est un petit peu du bidouillage. Parce que, et ce qui est marrant, c'est que même, je crois que c'est sa fille, à Raúl Castro, dit il y a un problème. C'est ça qui est intéressant, c'est que même elle dit en fait c'est pas dans l'idéal cubain, vous voyez, c'est un peu bizarre comme truc. Non, mais je trouve ça intéressant de voir que même finalement quelqu'un qui est issu du sérail, quoi, parce que voilà, elle a quand même vécu tout ça, là elle dit non mais on a un problème, c'est-à-dire qu'en théorie le président élu par l'Assemblée ne devrait pas avoir de compte à rendre à la tête du parti, vous voyez, c'est voilà. Et où ça va, je sais pas, mais ça part mal.
Il s'appelle Michel Diaz-Canel. J'étais voilà, en train de rechercher son nom. Parce que là, on bouffait tout ça comme ça. Hein. Nous n'avons rien préparé sur Cuba. C'est juste que nous, j'avais envie. Il faut se souvenir qu'il y a une économie quand même qui n'est pas terrible. Qu'il y a, il me semble, hein, de tête, 178 professions. Alors, c'est des petites activités qui peuvent se monter à Cuba. En particulier dans le tourisme. Donc, c'est comme ça qu'on trouve des petits hôtels, des petites auberges qui s'ouvrent. Parce que ça permet une économie. Il y a toujours les tickets de rationnement qui sont là, mais qui permettent pas de bouffer sereinement. Donc il y a un gros marché noir à Cuba aujourd'hui. Il y a une toute petite ouverture sur Internet.
Petite.
Il faut le dire très très vite. Et puis ça reste quand même en groupe, c'est-à-dire qu'il faut aller sur les points mis à disposition pour pouvoir.
Points qui sont lus en fait. C'est surtout ça. C'est en fait l'idée. Ah bah oui. C'est plus vous limiter l'accès et plus c'est facile de filtrer, lire et savoir ce que font les gens, quoi. Ça, c'est tout bête. Hein.
Alors, on pourra toujours, avec Laurent, je pense qu'on le fera toujours, de rappeler que Cuba, c'est l'un des meilleurs systèmes d'enseignement au départ. Je le dis au départ. Puisque c'est 100% hein, des Cubains et des Cubaines qui savent lire.
Oui, tout à fait. Même au niveau de la médecine.
Très, très clair. Ouais. Alors, après, la médecine, il y a autre chose. Mais c'est vrai que, par contre, dès qu'on parle d'études supérieures, ça devient un peu plus compliqué. Il y a un accès qui est très difficile. Ça, il y a une belle. Là, c'est pas gagné encore. Mais par contre, c'est vrai que sur ce côté-là de l'éducation de base, il y a une. Je crois que c'est un des pays du monde qui donne le plus de son PIB pour l'éducation. Je crois que c'est 12 ou 13%. C'est un truc, c'est énorme, alors que ailleurs c'est 4% déjà quand ça va bien. En France, je me souviens pas de.
J'ai pas
le chiffre en tête, mais on pourra vous trouver ça pour la semaine prochaine. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une implication de l'État sur l'éducation. Sur la santé, il y a eu un beau système, mais qui s'est un petit peu effrité quand même. Ces dernières années, et parce qu'il y a aussi un manque de moyens, il y a un manque de production qui fait que quand il faut soigner des gens, il faut aussi des médicaments et que c'est pas si simple. Il y a des produits que Cuba commence à faire venir, des produits qui viennent du Brésil par exemple sur l'alimentation, parce que ben ça manque un tout petit peu. Donc c'est un pays qui n'arrive pas à vivre par lui-même. Donc il y a des activités qui font un petit peu bouger, et puis on brasse l'air de rien du dollar hein, comme ça en cachette, hein, c'est bien ici.
C'est d'ailleurs devenu, j'ai vu, la monnaie principale d'échange sur l'île, alors que théoriquement c'est le grand ennemi, entre guillemets.
Ben ouais, mais bon, il n'y a pas bien le choix. Donc voilà, moi, je ne suis pas sûr que changer en mettant Michel.
Non, mais c'est de la façade, quoi. Ça fait aussi partie des demandes qui ont été faites pour normaliser le tourisme vers Cuba, en disant il faut que vous donniez un sentiment d'appartenance à la communauté internationale. Blablabla. Bon, ben, c'est vite fait, mais ça ressemble à ce qui se fait dans beaucoup d'autres coins du monde, quoi, malheureusement.
Voilà.
Et moi, j'ai une info qui est en lien avec Cuba, mais vous allez voir pourquoi. C'est que du fait que justement il y a un changement, je vous rappelle que la nouvelle liste des pays sûrs a été modifiée dans la loi qui vient d'être votée par ces chers députés, qui est la loi asile-immigration. Vous savez, donc on a changé les pays sûrs. Et donc, par exemple, si vous êtes homosexuel et que vous êtes cubain et que vous avez fui Cuba parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes lorsque vous êtes homosexuel là-bas, enfin LGBT, comme on dit maintenant, et bien en fait la France vous renverra gentiment, car vous êtes maintenant membre d'un pays sûr. Mais alors, je vous rassure, dans la liste, ce cher Gérard Collomb et ses services ont changé totalement. L'Afghanistan est aussi un pays sûr maintenant pour les personnes, quelle que soit la raison pour laquelle elles ont fui l'Afghanistan, parce qu'il paraît qu'il n'y a plus la guerre là-bas et puis que tout se passe bien. Et puis, comme il faut aller loin dans le cynisme, le Mali aussi est redevenu un pays sûr. Et puis, comme on aime bien aller très très loin dans le cynisme en France, parce qu'on adore ça, j'aurais jamais cru dire ça, l'Iran est partiellement un pays sûr. Voilà. Je trouve ça juste merveilleux, c'est-à-dire qu'on passe une loi qui est dégueulasse, hein, faut dire ce qu'il y a, parce qu'il y a tout ce qui est entour aussi, le fait de pouvoir mettre des gens en centre de rétention, y compris des enfants, il y a des choses vraiment dégueulasses dans cette loi. Mais en plus, en catimini, on change la liste, les fameuses listes de pays qui vous donnent droit en fait à avoir l'asile en France, et on y met des pays quand même où c'est juste hallucinant de se dire aujourd'hui qu'on va pouvoir dire à quelqu'un qui fuit l'Iran, par exemple, ah oui, mais là, dans cette région de l'Iran, là, c'est sûr, donc vous pouvez retourner chez vous, quoi. Je veux dire, c'est juste aberrant. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est que c'est quand même passé assez facilement et que finalement, on a du mal à s'approprier le sujet. Et je sais qu'il y a plein de collectifs qui luttent contre, et j'invite tout le monde à aller les rejoindre et à lutter contre cette saloperie de loi. Mais très honnêtement, même dans les débats à l'Assemblée nationale, parce que j'ai un petit peu suivi, même la gauche prend ça avec un petit côté, on peut pas accueillir tout le monde, quoi. Elle, la fameuse phrase de ce cher Rocard, et je me dis c'est une phrase qui sert vraiment à tout et à n'importe quoi, et surtout à ne plus rien faire. Voilà.
Quand on voit jusqu'où M. Wauquiez emmène aujourd'hui son parti, ouais. C'est marrant parce que les gens le demandent de plus en plus dans les médias, c'est quoi sa différence avec le Front National ? Parce que je crois que les gens l'aiment pas, M. Wauquiez, en tant qu'être humain, il dégage quelque chose qui est pas facile, je pense, à gérer sur un plateau de télé. Et on voit quelques journalistes faire une petite pique là comme ça, là, l'air de rien, parce qu'il s'ennuie.
Et il a quand même demandé un référendum sur l'immigration, ce qui était quand même le truc de Jean-Marie Le Pen depuis les années 80, quoi.
Et puis le droit du sol. Alors il expliquait dans Nice matin, c'est ça, il me semble que c'est ça
le grand journal de gauche.
Ouais, nice dans lequel en fait les gens venaient trop en France pour le RSA et pas pour les bonnes raisons de la République française.
Ça, c'est de la connerie pure.
Et ça, c'est vraiment le discours du Front National typique, tout simple.
On peut juste rappeler quand même un chiffre qui est à mon avis important, parce que on parle de vagues, de machin et tout. La France n'a jamais aussi peu reçu de personnes sur son sol, que ce soit légalement ou illégalement, pour reprendre les termes de ce cher Gérard Collomb, depuis maintenant près de 60 ans. C'est-à-dire, c'est juste qu'en fait, on vit la période où il y a le moins de monde qui arrive, c'est-à-dire qui demande à venir en France ou qui rentre en France. Et on en a fait un sujet central parce que on répond aux thèses de l'extrême droite pour garder le pouvoir. C'est que ça, en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que si on regarde objectivement les chiffres, c'est-à-dire vraiment si on regarde les chiffres tels qu'ils sont, on est 67 millions d'habitants aujourd'hui en France, il y a environ 100 000 personnes qui veulent venir habiter chez nous par an, légalement ou illégalement. 100 000 personnes sur 67 millions, c'est que dalle. C'est-à-dire que c'est moins que ce qu'on avait à la sortie de la guerre, c'est moins que ce qu'on avait dans les grandes vagues d'immigration polonaise, c'est moins que ce qu'on avait, et c'est pas grave, parce que si on a su le faire par le passé, je crois qu'on doit y arriver aujourd'hui, surtout qu'on est juste... accessoirement 150 fois plus riche.
Oui, mais
le pays, je parle.
A priori, l'envie n'y est pas, n'est-ce pas ? Ouais, quand ça. On n'est pas capable de mettre une partie de son PIB dans l'enseignement, dans la santé.
Je suis d'accord. Il n'y a pas l'envie. Hein,
derrière, on sent que c'est un peu. Il y a un projet quand même de société de la part de M. Macron qui est très très précis. C'est pas juste un gars de droite qui fait des choses comme ça en se disant ah, eux, c'est des méchants, on va leur envoyer leur RSA, puis eux, ah, c'est des étrangers, on les veut pas chez nous. Non, il y a un vrai projet de société qu'il est en train de nous proposer. Et,
le tous contre tous.
Ouais, enfin le moi pour moi.
Ouais.
C'est un peu d'abord ce qu'il doit penser. Je sais pas pendant combien de temps il s'imagine là, être dans cette lignée, tu vois, voilà.
Mais en tout cas, ça paye. Hein. C'est peut-être ça qui est le plus flippant.
Ouais. Ben écoute, je crois qu'on va se laisser. On va vous laisser ce soir pour ce Canu Info. Je vous retrouverai moi avec Laurent la semaine prochaine. On vous parlera de l'exposition que nous sommes allés voir au Musée des Confluences. Hugo Pratt, voilà, on vous dira ce qu'on en a pensé. Enfin, d'ici là, vous avez le droit d'y aller, hein, bien évidemment. voilà. Merci à vous deux, Jean-Yves et Fabien, d'être venus.
Merci de l'invitation.
Merci, c'était gentil. Et on embrasse quand même Laurent, parce
oui,
que sinon il va croire qu'on l'aime
pas. Petit message privé pour lui. Tu peux flipper parce qu'on va vraiment te remplacer. C'était juste une petite blague entre nous.
Bon, allez, on vous laisse. On vous souhaite une bonne soirée. Il y a un autre Canu Info demain, vendredi. Vous nous retrouvez évidemment sinon sur Internet, les blogs et tout ça. Et puis il y a plein d'autres émissions à découvrir en direct, en balado-diffusion. Après, c'est vous qui choisissez votre confort.
Effectivement.
Et après nous, les bandes continuent.
Voilà. Ciao.
Ciao.
Salut.